Et voilà, c'est à nous Marion, bienvenue sur les ondes FPP, bienvenue en direct de l'agenda aujourd'hui. Marion, alors pour donner une idée aux auditrices, aux auditeurs, tu viens nous parler aujourd'hui de ton tout nouveau et tout premier court-métrage, Vacarme, un film engagé car il traite de problématiques sociales très actuelles. Mais sa particularité à ce film, toute première, réside surtout dans sa dimension sonore. Et ce n'est pas un hasard car ta pratique d'artiste réalisatrice est intimement liée à l'écriture sonore et entre autres radiophonique. Tu connais FPP depuis quelques années maintenant. Et donc voilà, aujourd'hui tu viens nous faire écouter quelques bribes, peut-être déjà des extraits du film, qu'on puisse en avoir une sorte d'avant-goût, de parfum, de couleur, et peut-être les recherches qui t'ont inspiré. Tu viens nous raconter un peu cette toute nouvelle aventure.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est mon tout premier film. Avant ça, je travaillais essentiellement et presque uniquement le son.
Ouais.
Et j'ai eu un désir de narration, de fiction, et qui se prêtait à réaliser un film sonore, mais voilà, où le son était montré.
Oui.
Et ça parle non seulement de son, mais plus spécifiquement de bruit.
Voilà, et voilà, Vacarme.
Voilà, du bruit comme un outil, en fait, comme un outil qui dans une fiction, dans un réalisme un peu magique, il aurait un pouvoir, en fait, le bruit.
Du coup, tu en parles en termes de fiction, mais ce qu'on peut voir quand même dans ce court-métrage, c'est aussi un point de vue très singulier sur une actualité brûlante en ce moment, c'est-à-dire peut-être donne-nous quelques mots sur ton synopsis, qu'on puisse se rendre compte de la dimension fictionnelle, mais aussi du rapport au documentaire, en fait.
Alors, ouais, ça parle d'une expulsion et d'une destruction d'un immeuble, et les habitants de cet immeuble s'organisent pour résister et pour brouiller l'événement, pour brouiller cette destruction par la force du bruit.
Oui. Qu'est-ce qu'ils font un peu ?
Et donc, ils fabriquent des machines bruyantes qui vont recouvrir l'espace sonore, qui vont prendre le dessus sur le bruit de la destruction et de l'effondrement. Et donc, voilà, face à la dépossession, ils invoquent un autre paradigme que celui de la possession matérielle. Et il serait ici celui de la possession de l'espace sonore,
ouais,
pour désarmer leur opposant, quoi.
C'est une transformation de quelque chose qui pourrait avoir une valeur uniquement et symbolique et physique de l'ordre de la destruction massive pure et simple, où une transformation s'opère grâce à l'organisation de ce groupe d'individus, les héros de ce court-métrage. Et tout d'un coup, on entend crier un bateau, on entend des petites particules de cuillères qui tapent contre les vitres. Peut-être, on peut écouter peut-être un petit extrait au moins de la couleur du son
de cette destruction. De ce moment où l'immeuble pousse son cri.
C'est parti.
Pour une T1, qu'est-ce qui se passe?
Aucune idée. J'ai plus le contrôle.
Qu'est-ce qu'on fait?
On continue comme prévu.
Ok. Je vais sur le détonateur de secours.
Allez-y.
Et voilà, c'était un extrait de quelques secondes pour ne pas non plus entendre toute la composition. On peut entendre déjà les voix humaines qui parlent de destruction, du 3, 2, 1, c'est parti. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce que j'ai peut-être, juste en réentendant ce moment de la bande sonore, j'ai de nouveau mon cœur qui fait un petit battement. Un peu, il y a quelque chose de physique, en fait, dans ton film. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu à Paris en séance privée, mais il est aussi passé à Brest, hein, pendant le festival de court-métrage.
Oui, c'est ça.
Et quand je l'ai vu, j'ai eu vraiment une sensation cardiaque. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'amène le son. C'est une sorte d'explosion qui se fait d'une façon... le son, c'est de l'air. Hein, c'est un mouvement acoustique qui se fait avec de l'air. Et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une mini-explosion dans le cœur quand l'immeuble s'est écroulé.
Comme un souffle. Ouais. Bah, l'idée, là, c'était d'occuper complètement la bande de fréquence, quoi. Donc j'ai beaucoup cherché des sons qui pourraient ressortir, qui pourraient épaissir le bruit, et, oui. et en les matérialisant par des objets qui sont évidemment, bon, c'est du cinéma, donc les objets eux-mêmes ne produisaient pas les sons qu'on vient d'entendre, enfin à peu de choses près quand même, mais il y a certains objets qui évoquaient un son mais qui n'en produisaient pas, c'était simplement du décor, et après il a fallu composer, donc on a passé des semaines et des semaines en montage son sur le film qui fait 10 minutes et sur particulièrement le vacarme qui dure allez, 40 secondes, quelque chose comme ça, mais qui est, oui, une composition par la superposition, l'accumulation et la puissance aussi d'une tension qui en vient à son paroxysme jusqu'à voler l'espace sonore, en tout l'espace sonore qui est une partie de la destruction de l'immeuble et qui est donc une partie avec lesquelles les héros peuvent repartir parce qu'ils ont gagné sur ce plan là quoi.
Ils ont fait le show.
Voilà.
Marion, est-ce que tu peux juste nous dire pour un tout petit peu encadrer, donner peut-être une spécificité, c'est j'ai pas envie de mettre des étiquettes hein, pour les auditeurs et les auditrices, mais au moins dans quel registre tu t'inscris avec ce court-métrage?
Bah, je dirais un genre de science-fiction ou de réalisme magique.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu dis par magique?
Moi, en ce moment, je suis très, très, très à fond dans Toni Morrison, qui est une auteure américaine qui est incroyable. Et donc, elle, typiquement, bon, je prétends pas être à sa hauteur ou faire ce qu'elle fait, enfin c'est très très différent, mais en tout cas par la lecture de Toni Morrison j'ai pu découvrir ce qu'on appelle le réalisme magique en littérature et qui est aussi un genre qui est appliqué à la peinture, au cinéma, à plein d'autres arts, et donc ce que je veux dire là c'est que enfin le réalisme magique ça définit si je ne me trompe pas, un univers très très familier dans lequel surgit des éléments magiques qui viennent en fait comme des petites courtes échelles pour avancer dans cet espace familier qui est en révéler la part d'inquiétant. Mm. Voilà. Donc je dirais un genre de science-fiction ou de fiction. De spéculation narrative comme on en parle aussi aujourd'hui voilà, entre tout ça
c'est moi ce que je peux ressentir dans le rapport à la magie d'un bruit ou quelque chose qui va créer une brèche en fait dans le quotidien c'est aussi qu'il y a un rapport qu'on peut cerner avec toute la composition que tu as mis en place pour Vacarme, c'est-à-dire que chaque son est symbolique ou renvoie une source particulière, mais tout est fabriqué par les petites mains des gens qui vivent dans cet appartement. Donc c'est un rapport qui est très quotidien et qui en même temps va aller à la logique du... va complètement transcender ces frontières de qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on... T'as une phrase là-dessus qui est assez belle, peut-être,
oui.
Si tu veux la lire.
Oui, bah déjà juste pour rebondir, enfin c'est fait avec du briquet, du broc, ils sont une petite dizaine, même pas vraiment, pas autant, à fabriquer tous ces objets et c'est là où le symbolique est très fort, quoi, c'est que évidemment c'est là où c'est magique en fait, c'est que évidemment
avec des petites cuillères tu fais un bruit,
voilà,
de...
c'est ça. Et oui, j'avais écrit une petite phrase quand j'écrivais le scénario qui exprime un peu comment les héros expriment leur capacité d'agir et qu'est-ce qu'ils nous diraient si au lieu du bruit ils pouvaient exprimer ce qu'ils cherchent à faire. Ce serait ce que nous perdons nous rend vainqueurs. Ce que vous nous prenez ne sera jamais à vous.
Et ça, c'est une phrase qui parle quand même beaucoup de la transformation de la matière aussi, ce qui est quand même très magique en vrai.
C'est ça. Ce que je trouve très fort dans les actions non violentes, par exemple, qui est vraiment un détournement des modes d'action, mais aussi une transformation immédiate qui désarme complètement les opposants, quoi, les expropriateurs dans le cas de vacarme.
Oui, et aussi si on veut le rattacher même à, au mouvement des sorcières, donc de la magie dans le quotidien, c'est aussi une façon de trouver une autre logique d'action et une autre logique elle-même dans un logique, une logique de système en fait. Comment est-ce qu'on peut résister sans être anti ou frontal, mais par d'autres dérivés.
Voilà.
Est-ce que on n'écouterait pas un petit extrait de peut-être de quelque chose qui t'a quelque chose de quotidien, mais qui devient symphonique ou qui devient de la musique?
Oui,
ou
on
tu
peut.
Penses à autre chose.
Alors moi, j'avais amené là un extrait sonore d'une manifestation de poids lourds.
Super.
Que j'avais enregistré à l'époque où j'habitais à Strasbourg. C'était du coup, il y avait une centaine de poids lourds qui traversaient l'avenue de la Forêt-Noire, qui est donc l'avenue qui relie l'Allemagne à la France. Et bon, sur le coup, je ne me souviens pas bien de leurs revendications, mais c'était très, très impressionnant parce qu'ils klaxonnaient tous. Ils klaxonnaient tous en même temps. Et donc, il y avait un. Enfin, pour moi, ça a été une expérience sonore très marquante où il y avait un espèce d'orgue urbain qui se déplaçait. D'un côté à l'autre de la frontière. Et ça a été un des points de départ de mes recherches sur le bruit. Voilà.
Alors, Pierre déclencha sa propre fanfare dans nos oreilles, dans nos avenues, dans l'écho des arbres qui nous touchaient, dans les profondeurs du vallon qui nous faisait face. Et tous ensemble, on commençait à faire craquer nos crécelles, à écraser dans nos crécelles le silence et la solennité. Et si je vous disais qu'à ce moment-là, on s'est redressé comme des chevaux à qui on asticote la croupe, et qu'on s'est bourré en avant et que plus il y avait de bruit, plus on voulait en faire et qu'on aurait été capable, peut-être, de déchirer un loup avec les dents. En tout cas, l'envie y était.
Ça, c'est un extrait de Un roi sans divertissement de Jean Giono que je t'ai rapporté.
Ça va, je ne l'ai pas trop mal lu.
Non, c'était très bien. Merci. J'aurais vraiment pas mieux fait du tout. Et c'est en fait, avant de faire ce projet, ce film Vacarme, moi, j'ai fait un projet de radiophonique qui s'appelait Berserkir et qui parlait de la rencontre du sauvage dans la pratique de la chasse et qui parlait plein d'autres choses. Mais en tout cas, en particulier, ça m'a amené à faire des battues avec des chasseurs en Alsace.
Oui.
Et à être dans l'expérience de la battue, là, comme un peu on a pu l'écouter dans cet extrait de Giono, où on devait tous crier, on devait vraiment tous crier. Parce que
pour créer le mouvement,
parce qu'il fallait se donner du courage,
ouais.
Donc avec le bruit collectif on se donnait du courage, mais il fallait aussi crier pour pas se perdre de vue parce qu'on se voyait pas, on était dans des espaces tellement touffus, quoi, que
c'était une façon de se localiser,
c'est ça. Puis comme il fallait avancer à peu près au même rythme, on savait s'il y en avait un qui était en arrière parce qu'on l'entendait derrière nous, on savait si nous on était en retard parce qu'on entendait les autres devant nous, et donc c'était un repère et c'était en même temps un état dans lequel on se mettait tous ensemble, bruyant, quoi. Et donc, quand j'ai lu cet extrait de Giono et sa manière de dire « on écrase le silence »,
ouais.
Voilà, écraser le silence, ça veut dire que physiquement, on peut agir sur l'espace sonore comme sur une matière.
Ouais.
Et à partir de là, ça a été plusieurs rencontres comme ça avec les poids lourds, avec Giono, avec la chasse, qui m'ont amené à faire des recherches sur le bruit et sur quelle place il avait dans des rituels, dans des légendes, dans des mouvements sociaux, dans des choses qu'on connaît très bien comme le carnaval, les manifestations, tous ces moments d'exutoire qu'on connaît depuis qu'on, enfin voilà, dans toutes nos sociétés, dans toutes nos civilisations depuis des
La nuit des temps.
La nuit des temps.
Sous des formes différentes. Mais
voilà.
En tout cas, c'est présent et on l'entend.
C'est ça. Et après, y a des choses plus spécifiques sur lesquelles je suis tombée, qui étaient assez étonnantes, quoi. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez qu'au Moyen-Âge, il y avait les lépreux étaient équipés d'une crécelle pour annoncer leur arrivée dans les espaces qu'ils traversaient.
C'est pour ça qu'il utilise ce mot, Giono.
Les crécelles ?
Ouais.
Tu penses ?
Ouais. Il le dit, non, dans le texte.
Et bah, ils utilisent des crécelles, ouais. Et bah, les crécelles.
Faire craquer nos crécelles.
Ouais, les crécelles, c'est typiquement les instruments qu'on fait tourner et qui craquent et qui sont. Ça fait partie de ce qu'on appelle la paramusique, en fait, qui sont tous les instruments non harmoniques.
Ouais.
Et qui s'opposent au recueillement, qui ont quelque chose d'obscène, mais aussi quelque chose de magique.
Ouais.
Parce que si on les utilise à certains moments, pour certaines raisons, c'est aussi qu'ils ont
un pouvoir.
Un pouvoir, c'est ça. Et voilà, donc par exemple, voilà, les lépreux, ils traversaient les espaces avec leurs crécelles pour le bruit les précédait, ils pouvaient annoncer
leur présence,
mais du coup ils nous faisaient entendre le son de leur stigmatisation, mais aussi de leur contagion, voilà. Et c'était un usage du bruit, par exemple.
Donc toi, t'es quand même très tu travailles la matière filmique par le son. T'as fabriqué donc avec toute une équipe ce tout premier court métrage Vacarme qu'on a pu voir à Brest. Je sais plus exactement quand c'était.
Ouais, début novembre.
Et pour l'instant, tu es en train de le proposer. Donc bientôt, on va pouvoir le voir peut-être dans des salles spécifiques de documentaires expérimentaux qui parlent justement de la dimension sonore. Tu es aussi artiste sonore, tu crées des pièces radiophoniques. Donc on voit que tout s'inscrit par rapport à ta faculté d'écouter et du coup de raconter par le son.